au pays des contes. Bonjour. Eh bien, vous savez que les oiseaux ne peuvent pas écrire. C'est parce qu'ils ont trop de plumes sur eux et ne savent pas laquelle choisir. Sauf l'oiseau marabout qui sait exactement quelle plume s'arracher à la queue. Voilà pourquoi, en Afrique de l'Ouest, on raconte que cet oiseau a été choisi par le premier chercheur de contes pour voyager en sa compagnie. L'homme craignait sans doute que sa femme s'ennuie avec lui et que ses enfants ne dorment pas. Aussi, avec l'oiseau marabout sur l'épaule, il s'en est allé dans la savane, dans la brousse, le long des fleuves, écouter les histoires racontées par le vent, la pluie, les arbres, les pierres, les racines, les animaux. Et l'oiseau marabout, avec la bonne plume de sa queue, notait précisément sur une peau de bête toutes les paroles entendues. Mais une fois les histoires écrites, comment faire pour s'en souvenir ? De retour dans sa case, le premier chercheur de contes, sur les conseils de l'oiseau marabout, a rempli d'eau un grand pot qu'on appelle en Afrique un canari. Il y a plongé les histoires écrites pour que les mots d'encre fondent dans l'eau une nuit entière. C'est seulement le lendemain matin que l'homme, en guise de petit déjeuner, a avalé tout le contenu du canari. Et ainsi, les histoires bues sont devenues les histoires sues. Oh, chacune avait un goût particulier. Depuis lors, les conteurs, dont je suis, de tous les temps, ont aimé les bons crus. Et si l'aventure vous tente, acceptez mon conseil. Buvez tout sans rien laisser au fond du verre, sinon vous risquez le trou de mémoire. Le premier conte que je vais vous donner est un conte japonais. Un jour, un groupe d'enfants jouait au ballon dans un immense terrain vague, juste à la sortie de la ville. Et tout à coup, le ballon s'échappa des mains d'un enfant et il roula encore et disparut. Aussitôt, les enfants coururent aux quatre coins pour chercher leur ballon. En vain. Ils s'apprêtaient à quitter le terrain vague lorsque l'un d'entre eux poussa un cri. Il venait de découvrir, caché par des broussailles, un trou très large et très profond, un trou si large et si profond que les enfants restaient tous là, autour, incapables d'en détacher les yeux. Le soir, de retour chez eux, les enfants, les yeux encore pleins d'effroi, racontèrent à leurs parents ce qui s'était passé. Alertés, les adultes se réunirent et décidèrent d'organiser une expédition dans le terrain vague. Passés les broussailles, les grands comme les petits restaient plantés là, au bord du trou, si large et si profond. Aucun n'osait descendre au fond pour y chercher le ballon perdu. Le lendemain matin, on dressa des palissades tout autour du terrain vague avec un panneau « Interdiction de jouer ». Cependant, parmi les parents du quartier, il y avait un homme qui s'appelait Monsieur Tsua Tsua. Il était peintre et on le disait venu d'Asie. Il était nouveau dans le quartier. Comme les autres, il a découvert le trou, mais il a terriblement envie de descendre au fond pour y voir de plus près. Aussi, sans rien dire à personne, une nuit, il part avec une corde sur l'épaule, il escalade les palissades et, arrivé au bord du trou, il installe une poulie pour accrocher sa corde. Et le peintre commence à descendre dans la nuit du trou. Il descend, des heures durant, accroché à la corde, ne sentant ni le froid, ni le vent. Il descend toujours plus loin, sans rien voir autour de lui. Lorsqu'enfin ses pieds touchent le sol, il lâche la corde et ouvre les yeux. Surprise! Il découvre, creusé dans la roche, une ville souterraine. Une ville toute blanche. Une ville immense, étrangement déserte. Il n'y a là que gravats, décombres. Cette ville cachée serait-elle en chantier ou au contraire dévastée, abandonnée dans les entrailles de la terre? Partout des pans de murs effondrés, des vitres brisées, des portes défoncées. Personne dans les rues. Rien qu'un silence lourd. Monsieur Tuatua s'avance au milieu des pierres, il marche dans les rues désertes. Il appelle, il fouille, cherchant quelques traces de vie. Personne. Ses détours le conduisent enfin devant une maison encore debout. Et une femme est là qui pleure, la tête enfouie dans ses genoux, comme un tout petit enfant. Le peintre s'approche d'elle et pour la rassurer, pose ses mains sur ses épaules. La femme pousse un cri, mais il la calme en lui racontant le terrain vague, les enfants, le ballon, le trou, les palissades, la corde. Et à son tour, il veut savoir ce qui s'est passé dans cette ville étrangement silencieuse. La femme hésite, puis, dans un souffle, sans regarder le peintre, elle murmure « C'est arrivé il y a 2 jours, peut-être davantage. » Venus des galeries souterraines, des chats sauvages, énormes, hideux, monstrueux, des bêtes inconnues, griffues, ventrues, affamées, ont attaqué les habitants de la ville par surprise. Leurs hurlements ont déchiré l'air, cassé les pierres, anéanti la ville entière. J'ai réussi à me cacher dans un coffre, mais je suis sûre qu'ils vont revenir, je les entends déjà. Monsieur Tuatua a faim. Et soif. Alors la femme l'invite à entrer chez elle et lui offre ce qui reste à boire et à manger dans sa maison. Et c'est alors que le peintre découvre dans un coin de la maison des feuilles de papier, de l'encre et des pinceaux. Il s'en empare et sans un mot se met à dessiner et à peindre des chats de toutes formes, de toutes tailles et de toutes couleurs sur chaque feuille de papier. Et quand il ne reste plus une goutte d'encre, le peintre s'en va dans les rues pour chercher des murs encore debout. Il cherche toutes les surfaces laissées intactes. Puis il revient, épuisé, se cacher dans le coffre avec la femme. Et bien à l'abri, ils attendent. La nuit venue, précédée d'horribles miaulements, de hurlements stridents, les monstres, gras, griffus, velus, énormes bêtes affamées et assoiffées sont de retour. Ils bondissent de tous côtés dans les débris de la ville blanche. Ils sont des centaines et des centaines. C'est alors que, sortant des feuilles de papier, les chats dessinés, les chats peints, de toute taille, de toute forme et de toute couleur, se jettent sur eux. Ah ! La bataille fait rage. Pattes croisées, dents contre griffes, couleurs contre grisailles, hurlements contre froissement de feuilles. Le spectacle est d'une violence inouïe. Et finalement, ce sont les chats de papier qui ont le dessus. Les autres, tête baissée, éborgnés, édentés, griffes rentrées, regagnent à grand-peine leur galerie souterraine dans les entrailles de la terre. Tranquillement, les vainqueurs, chats de toute forme, de toute taille et de toute couleur, retournent chacun dans sa feuille. Lentement, ils s'effacent. Au bout d'une heure, il ne reste plus que des feuilles blanches sur des murs blancs. Et un grand silence. Pendant ce temps, l'homme et la femme sont restés bien à l'abri dans le coffre. En entendant le grand silence de la ville blanche, Monsieur Tuatua soulève le couvercle, il sort le premier, puis la femme, elle pleure de joie. « Ah, tu es un héros! Grâce à ton art, tu as sauvé ma ville !» Et elle le supplie de rester. « Ah, c'est impossible! Là-haut, ma femme et mes enfants m'attendent. Mais je te promets de revenir. Maintenant, aide-moi à rentrer chez moi. » La femme l'aide à raccrocher sa corde et M. Tua Tua commence sa longue remontée. Et dans la nuit du trou, il ne sent ni le froid, ni le vent. Il s'accroche à sa corde et se répète, joyeux et fier, « J'ai sauvé une ville, je suis un héros !» Quand il voit enfin le ciel, quand ses pieds se posent sur la terre ferme, oh, le terrain vague a disparu. Toutes les palissades ont disparu. À la place se dressent des maisons très hautes. Des gens passent devant lui, indifférents, des gens qu'il n'a jamais vus dans son quartier. Le peintre retrouve tant bien que mal sa maison, mais son nom ne figure plus sur la boîte à lettres. Inquiet, il questionne les voisins. « Monsieur Tua Tua, il n'y a personne de ce nom-là ici. » C'est alors qu'il entend ricaner dans son dos. Le peintre se retourne et aperçoit un vieillard tout ratatiné comme une vieille racine, enveloppé dans sa barbe, qui le regarde fixement. « Ah, je me souviens de ce nom-là, Tua Tua. Il y a si longtemps. J'étais jeune alors. C'est moi qui tenais le ballon. Ils ont bouché le trou et oublié l'histoire. » Le peintre n'en croit pas ses oreilles. Lui qui s'imaginait être parti un jour ou deux, il supplie le vieillard tout emmêlé dans sa barbe et ses souvenirs de lui dire où se trouvent sa femme et ses enfants. Et le vieillard lui montre la direction du cimetière, de l'autre côté du pont. Et il se ratatine encore et disparaît. Alors le peintre s'élance comme un fou pour traverser le pont. Il court jusqu'au cimetière. Tout tremblant, il pousse les grilles, il cherche les noms sur les tombes et découvre enfin ceux de sa femme et de ses enfants gravés dans la pierre. De l'herbe folle a envahi les tombes et le peintre se met à l'arracher avec toute l'énergie du désespoir. « Aïe, aïe, arrête! Mais tu me fais mal! Qu'est-ce qui te prend? Lâche mes cheveux !» Oh, c'est la voix de sa femme, couchée à côté de lui, dans leur lit. Oui, tout cela n'était qu'un rêve. Au Japon, et il n'y a pas si longtemps, enfin tout est relatif, au Japon, dans la ville de Kyoto, vivait un jeune homme passionné par le jeu. Tous les jeux, les cartes, les dés, la roulette. Chaque fois que le hasard et l'argent étaient au rendez-vous, on pouvait le rencontrer. Ce jeune homme n'avait plus de famille, plus d'amis. Sa famille, ses amis, c'était le jeu. En ville, personne ne connaissait son nom. On chuchotait derrière lui le joueur. Certains ajoutaient pour eux-mêmes voleur, menteur, tricheur. On l'évitait. Un soir, le jeune homme s'attarde dans un quartier périphérique de Kyoto. Il entre dans une auberge où quatre hommes sont attablés pour jouer aux cartes. Il s'approche et très vite se mêle à la partie. Jusqu'au milieu de la nuit, la chance lui sourit et il gagne, sans répit. Mais au petit matin, le joueur a tout perdu. Il ne lui reste ni yen, ni rien, ni bien, ni tien, ni mien, rien. Pour la première fois de sa vie, il a tout perdu. Hagard, la tête lourde et bien fatigué par cette nuit sans sommeil, le jeune homme qui n'a plus où aller découvre un terrain vague et désert avec, planté en son milieu, un arbre magnifique. Un arbre magnifique dont les branches lui semblent de grands bras accueillants. Alors, ignorant ordures et détritus qui jonchent le sol, le joueur va s'asseoir au pied de l'arbre et au moment précis où il ferme les yeux pour s'endormir, les branches de l'arbre s'agitent en tous sens. Dans une odeur de brûlé, et enveloppé d'un nuage de fumée, surgit un diable, avec des flammes qui lui sortent des yeux, du nez, des cheveux, du dos, des mains et des pieds. Un diable rouge, terrifiant, qui hurle en direction du joueur « Je veux ce que tu as dans ta poche. » Tu tombes vraiment mal, répond le jeune homme, quelque peu effrayé. Je n'ai plus rien. Menteur. Je veux les deux dés que tu as gardés dans la poche arrière de ton pantalon. Ah, le joueur, indigné, ose demander, mais que me proposes-tu en échange? Il ne me reste que ces deux dés. Le diable rouge manque s'étouffer de rage, mais bon joueur, il farfouille dans un sac qu'il porte sur son dos et en sort un éventail. Cet éventail contre tes deux dés. Que veux-tu que j'en fasse? Je préfère garder mes deux dés. Quel manque de confiance, quelle absence d'imagination. Mon éventail a le pouvoir d'allonger, comme bon lui semble, le nez de n'importe qui. Suffit de l'agiter dans un sens, de plus en plus vite, pour raccourcir le nez, suffit d'agiter l'éventail dans l'autre sens. Pratique et diabolique, non? Et le joueur est joueur. Il accepte de bon cœur l'échange. Le diable rouge disparaît avec les deux dés, laissant derrière lui une odeur de brûlé et un épais nuage de fumée. Les yeux brillants d'espoir, le joueur s'éloigne du terrain vague. Apprenez maintenant que ce jeune homme est fou amoureux de la fille du plus riche marchanderie de la ville. Hélas, à cause de sa terrible réputation, toutes les tentatives pour approcher cette demoiselle à la beauté sans pareille ont échoué. Mais maintenant que le joueur amoureux possède l'éventail diabolique, il y a peut-être un moyen. Vous avez deviné? Observant régulièrement la maison du plus riche marchanderie, le joueur a remarqué que la demoiselle sort chaque après-midi en compagnie de sa mère. Il se cache donc non loin de la porte d'entrée. Dès que la jeune fille apparaît, le joueur se précipite, l'éventail à la main. Il l'agite de plus en plus vite et aussitôt, le nez de la fille du plus riche marchand de riz s'allonge comme un spaghetti. Affolée, la mère qui suivait derrière ramasse le nez de sa fille, l'enroule telle une corde autour de son bras et toutes deux, mortes de honte, regagnent la maison. De son côté, le joueur a disparu. Une fois dans sa chambre, la beauté sans pareille pleure tant et tant que son nez démesuré se met à flotter sur un lac de larmes. C'est à la nuit tombée que le marchand de riz, de retour chez lui, découvre l'étendue du désastre. Cet homme d'action fait preuve d'un sang-froid remarquable. La nuit même, il imagine une affiche en quatre couleurs avec le portrait de sa fille avant accident et la promesse d'un mariage pour qui la guérirait, sans préciser de quoi. L'affiche recouvre tous les murs de la ville. Impossible de ne pas se retrouver nez à nez avec elle. Aussi, d'innombrables prétendants se bousculent devant la maison. Le marchand de riz reçoit les candidats un à un, sans distinction d'âge, de fortune ou de rang. Savant ou charlatan, veuf ou célibataire, étranger ou non, riche ou pauvre, seul compte la guérison de sa fille, son unique, sa bien-aimée. Bon, il serait trop long d'évoquer ici toutes les tentatives pour raccourcir ce nez ensorcelé. Ciseaux, pieds de nez acrobatiques, bouillon pour le tremper, massage, fervente prière pour le désenvoûter, musique et chant pour calmer quelque esprit dissimulé dans ces interminables cloisons. En vain, le nez reste imperturbable, intraitable, indomptable, incontrôlable, insupportable. Le plus riche marchand de riz de la ville est devenu la risée de toute la population. Car certains plaisantins se sont fait une joie de rectifier l'affiche. Désormais, impossible de ne pas tomber nez à nez avec le portrait de la jeune fille après accident. Certains magasins de souvenirs ont même mis en vente des copies du nez, en plâtre, en bronze et en or, et même en pâte de riz. Et 15 jours se sont ainsi écoulés. Le nez n'a pas bougé. La situation semble désespérée lorsque le joueur, qui tranquillement attend son heure, se présente à la porte. Cette fois, on ne lui fait aucune difficulté pour entrer. Mais en présence de la demoiselle, il a un choc en la voyant, amaigrie et en larmes. Cependant, rassurez-vous, son amour pour elle est resté intact. Il se dépêche de l'éventer en sens contraire de la première fois. Et le nez, sans hésiter, diminue régulièrement jusqu'à reprendre sa taille normale. La jeune fille se précipite vers un miroir et la vue de son nez retrouvé l'enchante. Elle le trouve même plus joli que son premier nez. Bouleversée, elle saute au cou du joueur. À la vue de la guérison, sa mère court prévenir son mari, homme de bien comme de parole. Soulagé, celui-ci confirme le mariage et fixe la date de la cérémonie. Mais les préparatifs risquant d'être assez longs, qui a déjà mangé japonais a pu apprécier le raffinement et la délicatesse de cette cuisine. Les festivités sont retardées de 3 semaines. Et pendant ce temps, le joueur a quartier libre. Il salue ses futurs beaux-parents, sa future femme, et part joyeusement enterrer sa vie de garçon. Il va d'auberge en auberge, de table de jeu en table de jeu. Il perd sans compter, mais que lui importe. Il deviendra par son mariage riche et respecté de tous. Et la date du mariage approche. Voilà qu'après une nuit sans sommeil, le joueur se retrouve au petit matin dans un terrain vague, qu'il a vaguement l'impression de connaître. En son milieu, il retrouve l'arbre magnifique, dont les branches semblent de grands bras accueillants. Le joueur s'allonge au pied de cet arbre, bienveillant, et s'endort. Et dans son sommeil, il rêve à sa vie future. Voyage à Tokyo, Pékin, New York, Paris, Londres, Berlin. Devenu joueur international, sa photo s'étale à la une des journaux, il se voit tenant les cartes en main. Mais en réalité, oui, c'est l'éventail qu'il agite devant son visage. Aussi, son propre nez s'allonge. Ah, le rêve du joueur est si agréable qu'il s'y accroche. Croyant toujours tenir les cartes dans sa main, il les agite fièrement. Mais au pied de l'arbre, par la vertu de l'éventail diabolique, c'est son propre nez qui grandit toujours, jusqu'à atteindre le ciel. Or, étrange coïncidence, à cause des nuages de plus en plus nombreux, occasionnant dans le ciel des embouteillages de plus en plus intolérables, les démons, grands voyageurs aériens, ont décidé de construire un pont suspendu au-dessus des nuages. Et ce pont est sur le point d'être achevé lorsque pointe le bout du nez du joueur. Un démon, travailleur du chantier céleste, s'en saisit et le fixe comme dernier pilier du pont. Le coup est si terrible qu'il réveille le joueur assoupi sous son arbre. Et il constate l'étendue du désastre et veut immédiatement agiter l'éventail en sens contraire. Hélas, trop tard. Le bout du nez est bien fixé. Le poids de son corps étant devenu moins lourd que le poids de son nez, c'est une simple loi de physique élémentaire. Le malheureux joueur est balancé au ciel, sur le pont tout neuf, au moment précis de l'inauguration. Et qui avance en tête du cortège? Le maire? Non. L'empereur du Japon? Non. Le premier ministre? Non, non. Le ministre des Transports? Non, non et non. Voyons. Le chef du chantier, c'est-à-dire le diable, toujours à coquiner à la construction des ponts, sur terre comme au ciel. Il reconnaît immédiatement l'étrange visiteur et lui délivre son nez. Une fois l'éventail récupéré, le diable redonne au nez du joueur une taille normale. Sois le gardien du pont. Je viendrai de temps en temps jouer avec toi aux cartes ou aux dés. Banco, dit le joueur. Ne me demandez pas qui épousa la fille du plus riche marchanderie de la ville, ni quels mets délicats furent servis, j'étais pas invitée. Aujourd'hui encore, certaines nuits, en observant la Voie lactée, cet immense pont suspendu au-dessus des nuages, petits et grands peuvent y voir, à condition de regarder à la jumelle ou avec une longue vue, deux individus qui jouent aux cartes ou au dé. Et mon histoire est terminée. Eh bien, vous m'avez prêté vos oreilles aujourd'hui, mais pour terminer, je vous dirai qu'un matin, un homme s'est mal réveillé. Il avait trop mangé et trop bu la veille. Il s'est levé avec peine et puis une fois dans sa salle de bain, il s'est regardé dans le miroir avec dégoût. Ses yeux avaient des valises, comme prêts pour un grand voyage. Ses joues étaient froissées, chiffonnées, son nez coulait et sa bouche restait bée. À la vue de ses oreilles, l'homme effrayé a appelé sa femme à l'aide. « Dis-moi, je t'en supplie, à quoi servent mes oreilles ?» Mais ce matin-là, sa femme n'avait pas le goût à la plaisanterie. Elle a refusé de lui répondre. Alors l'homme a appelé ses enfants. « Dites-moi, vous, à quoi servent les oreilles ?»« Nous, on pose les questions, et toi, tu réponds. » Et furieux, ses enfants s'en sont allés seuls à l'école. Oh, se sentant abandonné par les siens, l'homme s'est vite habillé et il a couru au bistrot du coin où tous ses amis étaient attablés comme chaque matin. Lequel d'entre vous peut me dire à quoi servent les oreilles ? Oh, ses amis sont restés sans voix devant une telle question. Certains même s'inquiétaient pour lui. Trop de soucis sans doute, sa femme, ses enfants, son travail. Ils l'ont invité chaleureusement à s'asseoir à la table, boire un café, mais lui, il a refusé. Il était pressé, il avait une vraie question, il voulait une vraie réponse. Voilà pourquoi il est parti sur les routes, les autoroutes, interrogeant tout le monde. S'il vous plaît, à quoi servent les oreilles ? Mais les gens ne voulaient pas lui répondre. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment. C'est un étranger, c'est un fou, on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'il nous veut ? Heureusement, l'homme a fini par trouver la réponse tout seul. Après des mois de voyage solitaire, il est arrivé un soir au bord de la mer. Le soleil se couchait, tandis qu'un pêcheur finissait de recoudre l'un de ses filets, tranquillement assis sur un banc. Et pour coudre, le pêcheur avait passé le fil derrière l'une de ses oreilles. Alors l'homme a compris tout de suite. Il a envoyé une lettre à sa femme, à ses enfants, à ses amis restés sans nouvelles. Et sur chaque lettre, il a écrit « Pourquoi personne ne m'a dit que les oreilles servent à coudre ?» Ah, depuis les enfants de ses enfants savent et se vantent d'avoir des oreilles très bien ourlées. Vous aussi peut-être. Eh bien, c'est sur ce petit conte que je vous dirai au revoir.